Elie Bouzine va nous parler ce soir de ma médecine et la Shoah.
J'essaie de parler fort.
Je dois parler fort, effectivement. Et je me suis donc engagé de vous parler de ma médecine et la Shoah en contre-pied, parce qu'on m'avait demandé il y a un an et demi, dans un milieu médical, on m'a demandé de faire une conférence sur la médecine nazie et la Shoah. Alors, je me suis immédiatement récusé parce que j'avais dit que la médecine nazie, j'en connaissais pas grand-chose, parce que comme déportés, ceux qui ont connu la médecine nazie ne sont pas là pour en parler, parce que la mortalité était à 99% et des poussières, et par conséquent, je ne peux pas parler de la médecine nazie. Par contre, je me suis dit, je peux parler de ma médecine, et puis de la Shoah, et quelle influence elle a eu sur mon exercice médical dans plusieurs décades. Et je rentre vivement dans le sujet parce que vraiment le temps est un peu limité pour un sujet qui est finalement assez large, à savoir que je passe sur la Shoah. Fini. 5 ans de guerre, privé de liberté, perdu tous les miens. Commencé par l'exécution de mon frère aîné de 22 ans devant nous a été fusillé pour l'exemple. Je passe là-dessus, la déportation dans différents camps, et surtout l'arrivée à Auschwitz où mes parents ont été exterminés parce que paraissaient âgés, alors que ma mère avait 44 ans et mon père 52. Donc, et moi, au même moment, j'étais sélectionné pour le travail par un médecin nazi, un sous-fils de Mengele, et tatoué et envoyé à Auschwitz pour travailler. Je passe là-dessus. Ensuite, liquidation d'Auschwitz et la marche de la mort est arrivée à Buchenwald, où j'étais libéré en avril 1945. Après la libération, j'arrive en France avec un groupe d'adolescents. Et j'ai la chance de trouver deux oncles, deux frères de ma mère qui vivaient à Paris, qui m'ont accueilli largement, qui me connaissaient d'ailleurs d'avant la guerre. Et j'avais toutes les conditions requises pour faire une vie dite normale, que j'ai refusée. Pourquoi j'ai refusé? En deux mots, je ne pouvais plus supporter l'Europe, parce que je trouvais que le sol européen était détrempé et imprégné par le sang et par les cendres de tous les autres. Et 6 millions, c'est une bagatelle. Et dans ces 6 millions, tous mes proches. Et par conséquent, j'ai décidé de ne pas rester en Europe et de m'expatrier. J'avais choisi la Palestine. Et j'avais choisi la Palestine encore en Allemagne quand les Américains nous demandaient où on voulait aller. D'ailleurs, ces documents-là, je les ai reçus il y a 3 ans. Perçu où il était effectivement marqué que j'avais opté pour la Palestine. Et donc, j'y suis parti en Palestine en 1947, après m'être engagé à la Haganah, qui était le précurseur de l'armée israélienne, de Tzahal. J'ai travaillé pour la Haganah ici en France pendant quelques temps. J'y suis parti avec des faux papiers. Je suis arrivé normalement en Palestine. Et là, guerre de l'indépendance, à laquelle je participe comme militaire. Et après la guerre de l'indépendance, j'ai travaillé dans un kibbutz, dans plusieurs kibbutzim, pendant 5 ans supplémentaires. En 1954, à 25 ans, j'avais décidé que je voulais faire des études, et en Israël, je n'avais pas les moyens, les études sont payantes, et je n'avais aucun moyen de le faire là-bas, et donc j'y suis revenu en France. Et là, un parcours très rapide, il fallait passer son baccalauréat parce que j'étais totalement inculte et je n'avais aucune scolarité de l'âge de 10 ans à l'âge de 25 ans. Et par conséquent, bon, je passe sur les deux parties de baccalauréat que j'ai fait à Oran, parce que j'ai travaillé là-bas comme maître d'internat, et c'était passionnant d'ailleurs. Et avec mon bac, je m'inscris à la fac, d'abord de sciences parce qu'il fallait avoir un certificat de science qu'on appelait le PCB, physique, chimie et biologie, et c'est qu'avec celui-là qu'on pouvait s'inscrire à la faculté de médecine. Et voilà, me voilà, enfin inscrit en médecine à l'Hôtel Dieu, un grand service de médecine, comme stagiaire, c'est-à-dire de tout ce qui est le plus bas dans l'hiérarchie médicale. Et moi, je suis très heureux. J'ai presque 28 ans, 29 ans. J'étais plus âgé que le chef de clinique du service. Et par conséquent, je suis très content. Et comme stagiaire, j'avais 3 lignes pour lesquelles je devais faire une pré-observation, qui était corrigée après par la hiérarchie, peu importe. Le patron, qui était un vrai mandarin, là je vous donne une petite vignette par rapport à la Shoah, c'est que le patron était un grand mandarin qui faisait la visite une fois tous les 15 jours, son assistant devait lui ouvrir la porte, etc. Et par hasard, il m'interroge. Et je lui dis une des observations que j'avais faites, qui n'était pas un chef-d'œuvre bien entendu, au milieu de la conversation, il commence à m'injurier d'une façon effroyable, mais vraiment grossière, en hurlant, en disant « Mais qu'est-ce que c'est ce personnage-là qui veut faire la médecine? Il ne pourra jamais être médecin avec une observation comme ça. » Mais vraiment avec des mots très grossiers. Et pour moi, je disais « C'est un nazi, c'est un facho qui est là. » Et j'ai pris ça comme un truc personnel contre moi. Et j'ai dit « Je vais lui casser la figure. » Vous savez, je sortais de la Shoah, je sortais d'Israël avec la guerre de l'indépendance, j'étais militaire, etc. J'ai dit, je vais lui casser la figure, et je m'approche de lui, et j'ai dit, je vais vérifier s'il a les petites insignes avec la croix gammée, parce que j'étais sûr qu'il en avait sur sa blouse. Je regarde, je ne vois pas la croix gammée, je vois une petite barrette rouge, dont je ne connaissais absolument pas la signification. Et en même temps que j'allais lui taper dessus, je me suis dit, si tu lui tapes dessus, c'est fini la médecine. Tu es complètement paré. Alors je m'y suis retenu, il est parti, tout le monde est venu me consoler après en disant que c'est un caractériel, qu'il est fou, il fait ça à chaque fois à quelqu'un d'autre, que je n'étais pas une exception et tout. Voilà. Et vous voyez, là, cette implication à la Shoah et les débuts de mes médecines étaient assez... Je passe là-dessus. Je suis ensuite, passe les concours.
Non, tu ne passes pas là-dessus. Parce que tu dis aussi pourquoi. On t'a dit ce que c'était que le petit machin rouge.
Comment?
Le petit machin rouge, on t'a dit ce que c'était.
Non, après. Oui, j'ai demandé ce qu'était la barrette rouge. Alors, on m'a expliqué que ce monsieur, qui à l'évidence était collabo, était facho pendant la guerre, est devenu résistant les 3 derniers mois avant la libération, et il a été décoré de la Légion d'honneur. Et comme tous les messieurs. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on m'a proposé, là, il y a 2 ou 3 ans, de faire partie de la Légion d'honneur. J'ai refusé catégoriquement de faire partie de ce genre. Parce que j'avais en tête le professeur Barietti avec sa barrette. Bon, merci. Eh bien, je passe des vignettes comme ça, parce que j'avais décidé, quand j'ai commencé la médecine, j'ai dit ma Shoah. Je la mets dans un petit coffret, bien fermé, étanche, je la loge quelque part derrière dans ma cervelle. La clé de ce coffret, j'y tenais beaucoup, je l'ai logé dans un autre coin de ma cerveau. Et j'ai dit comme ça, je pourrais faire normalement mes études et essayer de rentrer dans une vie normale. Et voilà. Or, ce petit coffret, si vous voulez, était étanche dans la journée. Ça marchait très bien en général, sauf quelques exceptions. Et la nuit, il avait des fuites. Et des fuites, d'ailleurs, mon épouse les a connues après, c'est-à-dire j'ai des cauchemars, je me lève la nuit, je vais partir, je vais... Enfin, peu importe, il n'était pas aussi étanche que j'aurais voulu. Je passe sur l'externat, et encore, il y avait des choses intéressantes. J'y suis interne, et interne en chirurgie, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi, parce que je savais que je serais chirurgien, et par conséquent, c'était très important. Et déjà, quand je savais cela, mon numéro, mon tatouage, je l'ai fait enlever volontairement pour 2 raisons, en fait. La première, destinée à la chirurgie, on se lavait les mains 3-4 fois par jour avant chaque intervention. mon numéro était visible et on me demandait qu'est-ce que c'est que ça, parce que la majorité de mes condisciples, qui avaient 10 ans de moins que moi, ne savaient absolument pas ce que c'est, parce que c'était plus de 15 ans après, hein, vous savez. Et alors il demandait si j'étais le numéro de ma copine, et que, alors quand j'étais obligé de dire non, que c'était pas le numéro de ma copine et tout ça, il commençait à demander, mais comment c'était là-bas, est-ce que les filles étaient belles, est-ce qu'on mangeait bien, etc. Bon, je voulais éviter ce genre de questions, ça m'indisposait, et je n'avais pas à partager avec personne mon vécu, qui m'était très difficile, même pour moi. Et par conséquent, il y avait une autre raison, c'est que des générations plus âgées de médecins, au milieu médical, là je parle que du milieu médical, savaient ce que c'était la déportation, ils savaient forcément que j'étais jeune quand j'étais déporté et tout, avaient une tendance naturelle, discutable ou pas, de s'apitoyer sur le sort de ce pauvre déporté qui a dû souffrir, etc. Et en même temps, peut-être un peu plus, et coulant dans les examens, et comme ça. Et ça, c'est pour moi, c'était totalement proscrit, et c'est pour ça que j'en ai dit. Mais je tenais à garder la trace de ce numéro, sous forme d'un bout de fragment cutané, une espèce de parchemin. Et pour moi, ce numéro avait une importance énorme, pas sur moi, mais à côté de moi, parce qu'il personnifiait et puis il représentait le tombeau, la pierre tombale de la mort de mes parents, parce qu'en même temps qu'on me tatouait, mes parents étaient assassinés sauvagement, et pour moi, les deux choses étaient liées. Bon, ces numéros avaient des problèmes. Pendant des années, je passe là-dessus, et je rentre maintenant dans le vif du sujet, en quoi la Shoah a pu influencer mon exercice chirurgical. À savoir, à côté de l'exercice habituel de tout chirurgien, orthopédiste ou non, et avec la légion d'interventions en traumatologie ou en dégénérescence des articulations, les différentes arthroses, etc. Et pour moi, il y avait plusieurs choses, il y avait 5 pôles d'activité qui sont greffés à cette activité tout à fait habituelle, influencés précisément par la chose. Le premier pôle qui était très important et pour lequel j'ai pris conscience moi-même tout de suite, c'était mon attitude anormale presque, ou vraiment anormale par rapport aux malades âgés avec lesquels je devais m'occuper, déjà depuis mon externat. Et cette attitude qui était anormale était liée à un fait, c'est que j'assimilais chaque malade âgé qui souffrait, qui devait parfois mourir, etc., il représentait dans mon imaginaire mes parents, mon père et ma mère. Et je ne supportais pas qu'ils souffrent. Et je voulais qu'ils guérissent, qu'ils soient soulagés. Je faisais des pieds de ma peau, vraiment. Et s'il fallait, donc, peu importe, je ne voulais pas qu'ils souffrent. Et je ne voulais pas qu'ils meurent, même. Et donc, ça, c'était un problème qui s'est échelonné pendant tout mon exercice, jusqu'au bout, comme ça. Voilà, ça, c'est un premier pôle d'activité qui était un peu particulier. Le deuxième, c'était, je n'aurai pas le temps de préciser, c'est que j'avais organisé une unité chirurgicale, un petit service de chirurgie, dans un grand service de psychiatrie à Villejuif, peut-être vous connaissez. Eh bien, dans ce centre, il y avait une petite antenne chirurgicale, à savoir une consultation et un petit bloc opératoire où on pouvait opérer que sous anesthésie locale. C'était la chirurgie ambulatoire à l'époque. J'ai accepté ce poste alors que j'étais déjà occupé comme chirurgien assez occupé, je l'ai accepté. Et ensuite, je m'étais demandé, mais pourquoi tu acceptes ce travail? Tu n'en as pas besoin et qu'est-ce que tu as à faire avec des psychiatries graves qui étaient en camisole chimique effroyable, etc. Et j'avais compris, j'ai accepté ce poste. Pourquoi? Parce que les nazis exterminaient leur psychiatrie à eux, les Allemands, étaient systématiquement mis à mort parce qu'ils étaient malades et qu'ils étaient pas, ça ne fallait pas qu'on les soigne et puis surtout qu'ils pouvaient polluer, parce qu'ils pouvaient peut-être avoir des enfants et tout ça, ils pouvaient contaminer la race aryenne supérieure, etc. Et moi, j'avais, en contre-coup, j'avais besoin de me démontrer et démontrer que ces gens-là pouvaient être soignés comme tout un chacun, qu'ils pouvaient subir des opérations comme tout un chacun, et par conséquent, c'est une activité que j'ai faite pendant toutes les années jusqu'à ma retraite hospitalière. Bon. Un troisième pôle était la chirurgie sans transfusion. La chirurgie sans transfusion, celle-là, je l'avais analysée en deux temps. Le premier temps était, je faisais un remplacement. À la fin, j'étais chirurgien assistant des hôpitaux, je suis parti faire un remplacement d'ailleurs avec ma femme et notre fille aînée à Saint-Pénoul, je ne sais pas si vous connaissez, sur la route de l'Est, là, près de Vertin, enfin, avec les belles forêts, etc.
C'est là où Lucette, c'était chez...
Alors,
il a été arrêté à Saint-Pédil.
Eh bien, j'étais donc chirurgien, j'ai fait un remplacement d'un mois et demi, parce que le chirurgien était parti, je me souviens, enfin, peu importe. Eh bien, au cours de ce remplacement, je vois en consultation, là à l'époque je faisais encore, j'avais les deux casquettes, je faisais la chirurgie générale, c'est-à-dire viscérale, et la chirurgie orthopédique, pour laquelle j'étais qualifié un peu après, mais j'étais déjà en cours de validation. Et bien ainsi, en chirurgie générale, je vois en consultation une dame âgée, qui a 70 ans à peu près, qui tient avec ses deux fils et ses deux brus, qui n'est pas habituel quand même de voir en consultation comme ça une cohorte. Elle vient parce qu'elle a un cancer de l'utérus, et elle a besoin d'une hystérectomie, enfin une opération un peu large et difficile, et on me l'envoie avec son dossier pour confirmer et puis éventuellement l'opérer. Je vois le dossier, je confirme, et je lui dis effectivement, elle dit qu'elle s'y attendait, qu'elle est tout à fait d'accord d'être opérée, mais il y a une condition absolument, hein, c'est qu'elle refuse toute idée de transfusion sanguine. Alors moi j'étais un petit peu comme ça, et elle dit non, et d'ailleurs elle sort un formulaire qui était tout prêt pour dégager toute responsabilité du chirurgien en cas d'accident pendant ou après l'intervention, c'est habituel. Et finalement j'étais un peu étonné, elle me dit, moi je suis témoin de Jéhovah, et mes deux fils aussi, et mes deux brûlés également. Alors ils étaient là pour ça, pour entendre le fier, et par conséquent il fallait que je leur promette que je l'opérerai, même si une opération hein, comme ça, elle ne sera pas transfusée, même si elle doit mourir sur la table d'opération. Moi, effectivement, j'étais un peu interloqué, et voilà que la Shoah revient à toute blinde. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que je m'y suis rappelé, après la sélection, le numéro, je suis envoyé à Auschwitz 1, que tout le monde visite dans ces petits bâtiments en briques rouges, là, peut-être que vous avez connu. Je suis envoyé là-bas pour être envoyé à un commando de travail. Et juste au moment où j'arrive, je tombe malade. Je suis pris d'une forte fièvre, de diarrhée, de vomissement. J'étais étiqueté comme contagieux, infectieux contagieux. Et de force, on me met au Rovir, qui était une espèce d'hôpital dans le camp, le bloc 22. Et là-bas, c'était un mouroir. On savait quand on rentrait là-bas, c'est fini. Enfin, on m'a forcé d'y aller, je suis allé, et voilà que je vois arriver vers moi un médecin nazi, pour moi, habillé en blouse blanche, blanc, avec des yeux bleus, et qui s'approche de moi, et je me dis, ça y est, c'est la fin. La fin. Et voilà que je l'entends en allemand, en me disant, calme-toi, je te vois angoissé, etc. Calme-toi, on va te soigner, on va faire tout ce qu'on pourra pour t'aider, pour te sortir là-dedans. Et puis je me suis dit, alors je cherche son insigne à la tête de mort, avec les deux SS là marqués, comme ils avaient tous sur la blouse, et je ne trouve pas. Et je trouve quoi? Je trouve un triangle violet surmonté du numéro. Moi j'avais un triangle rouge parce que j'étais politique. Vous savez, les juifs étaient finalement des politiques. Dans certains camps, ils avaient même un triangle jaune avec, ça faisait Magen David. Mais mais je ne savais pas ce que c'était les triangulaires. Et ce type m'a sauvé la vie, effectivement. Et en quelques jours, j'ai cru reprendre un peu de force, et la diarrhée s'est arrêtée, la fièvre a chuté, et j'y suis retourné dans mon bloc. Et en rentrant dans mon bloc, je raconte cette histoire, je ne répète pas, et je demande, mais le triangle violet, qu'est-ce que c'est? Alors, ils me disent, triangle violet, ce sont des Allemands qui sont objecteurs de conscience, qui ont refusé d'être engagés dans l'armée allemande, dans la Wehrmacht. En plus, ils sont bibles forchères, c'est-à-dire ils sont témoins de Jéhovah. Et quand je voyais cette femme, et j'ai mon acquis, il était d'ailleurs pas médecin, il était infirmier, et je vois ce témoin de Jéhovah qui m'a sauvé la vie, j'ai dit, madame, je vais faire tous mes efforts possibles et imaginables pour vous opérer sans vous transfuser. Et je vous promets, mais si jamais je dois vous transfuser parce que votre état sera tel, ça sera fait et je vous le dirai. Et maintenant, c'est à vous de choisir, sinon vous cherchez quelqu'un d'autre. Alors, ils ont fait un espèce de petit meeting, ils ont dit d'accord. Et je l'ai opéré, et elle n'a pas été transfusée. Elle n'a pas été transfusée, tout s'est bien passé. Et puis, j'ai oublié l'histoire des témoins de Jéhovah, j'ai continué mon chemin, j'ai devenu chirurgien orthopédiste. Et pas mal d'années après, je reçois un accident tel du périphérique, j'étais près de la porte de l'Italie, un accident tel du périphérique en moto, il avait sa jambe écrasée avec une effroyable fracture ouverte, importante et tout, et d'ailleurs le pied a déjà été amputé sur cette jambe, et je le vois en allant en point, je lui dis, écoutez, vous savez, votre fracture elle est très, très difficile et grave, et je vous propose l'amputation. Parce qu'il avait quand même la situation du genou, le pied était déjà amputé. Je dis, qu'est-ce que c'est ces pieds amputés? Il me dit, ces pieds amputés parce que j'ai déjà eu un accident avant, un accident de moto, et on m'a amputé, et puis ça va très bien, avec ces pieds je me débrouille bien, je fais du ski, etc. Alors il me dit, l'amputation, je refuse. Exclu d'être. Alors, je dis, je savais que les gens avaient le droit de refuser, de se séparer d'un de leurs membres, et qu'on ne pouvait pas les imposer, sauf cas extrême, on ne pouvait pas imposer une amputation. Et il me dit, mais en plus, j'ai une autre condition. Alors je dis, qu'est-ce que votre condition? Je refuse toute transfusion. Et il me sort le bulletin, etc. Et puis en plus, il a un langage médical. Et il me dit, mais moi, je connais la question, je siège dans la commission médicale des témoins de Jéhovah, de l'île de France, etc., qui est un truc assez important, et il me dit, suivez bien, mais vous ne me transfusez pas, et vous ne m'amputez pas. Voilà comme ça. Je lui dis, ah bon, mais écoutez, l'amputation, vous pouvez refuser. Maintenant, la non-transfusion, il y a une solution pour vous, on peut mettre un garrot. Dans l'opération pour que ça ne saigne pas, on met un garrot sur la cuisse, on peut opérer sans transfuser. Je vous dis, je vous promets pratiquement à coup sûr que vous ne serez pas transfusé. Bon, il m'a fait confiance, et effectivement ça s'est passé comme ça. Et puis à partir de lui et mon passé que j'ai raconté là, je suis rentré de plein pied avec ce bonhomme-là, M. Riard, qui est là d'ailleurs dans le 14e, que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Il m'a aiguillé sur les témoins de Jéhovah, sur la chirurgie sans transfusion. Je suis allé deux semaines d'études aux États-Unis, spécialement pour voir ce qu'ils faisaient aux États-Unis, à New York surtout. Et c'était passionnant parce que j'ai vu là-bas, il y avait des pancartes devant les hôpitaux cliniques, il y avait marqué Bloodless Chirurgery. Il travaillait sans transfusion. Et effectivement, j'ai vu des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Et j'ai vu qu'on pouvait faire des choses. En rentrant, j'ai fait un colloque organisé dans un service avec des juristes, des anesthésistes, des chirurgiens, pour voir dans quelle mesure on est autorisé ou on peut travailler, opérer des gens sans transfusion. Et c'était tout à fait possible, il y avait des adaptations possibles, il y avait l'autotransfusion, en fait je ne rentre pas dans les détails, je suis devenu un chirurgien connu comme étant un chirurgien qui ne transfuse pas. Alors après, avec les sida, c'est devenu une banalité, avec le sang empoisonné, je ne rentre pas là-dedans. Et effectivement, ça m'a beaucoup servi même après. Mais l'origine était la chose. Sinon, je pense que vous ne serez jamais engagé là-dedans. Quatrième pôle, ça c'était les trois premiers pôles que j'ai cités. Quatrième pôle, c'était encore un problème. J'ai 50 ans. Je suis en vacances avec ma fille qui est là, très secrètement derrière, et ma femme et les trois enfants. J'y suis, nous passons les vacances dans une merveilleuse résidence à Cannes, dans le haut de Cannes. Il y avait un parc énorme et très boisé, en fait, avec une végétation luxuriante, une chose comme ça. Et moi, j'ai 50 ans et je prends conscience que la chirurgie, c'est quand même un peu fatigant, qu'on est totalement statique, on reste debout des matinées entières, et malgré les apparences, il y a une tension nerveuse, avec une concentration sur notre travail et tout. J'ai dit qu'il fallait que je change quelque chose dans ma vie, parce que cette façon de faire était dangereuse. Je me suis mis à marcher dans ce parc, par un temps splendide, avec une végétation splendide et tout, et je marche. Et en marchant comme ça un peu, qu'est-ce que je fais? Je me vois marcher, moi, la même chose, mais en haillons, peut-être dans la marche de la mort, entre Auschwitz et Buchenwald, avec des morts partout qui jonchaient le long de la route. Et moi, la moindre défaillance, c'était l'exécution par une balle dans la nuque, par les SS qui nous convoyaient à cheval. Et voilà, je dis, voilà la marche de la mort. Et là, c'est la marche de la vie. Et je dis, la marche de la vie, c'est ça. C'est ça la vraie marche. Et je rentrais dans mon petit coffret, là, la marche de la mort. Et j'ai continué à marcher. Je marchais très énergiquement. Je suis allé dans l'armée israélienne 2 heures par jour. Et ça me faisait beaucoup de bien d'avoir marché 2 heures par jour. Je rentre à Paris, j'ai dit, je vais continuer. Et j'ai très vite remarqué que jamais je n'aurais 2 heures à donner 2 heures de ma journée pour marcher. Et je me suis dit, si je cours à la place de marcher, eh bien, je gagnerai du temps. Bon, petite façon de voir.
C'est la première fois que je l'entends.
Bon, mais comme j'étais pas fou, je ne voulais pas prendre des risques parce que j'étais quand même, je fais de la médecine aussi, j'étais chirurgien depuis de longues dates, etc. Je dis, je ne veux quand même pas prendre des risques parce que j'ai des responsabilités. J'ai 3 enfants, j'ai un frère, j'ai des responsabilités, si vous voulez, professionnelles aussi, et par conséquent, il ne faut pas faire le con. J'ai fait ça progressivement, en courant 1 quart d'heure, 2 minutes, et en augmentant 5 minutes par mois. Et c'est ainsi que j'ai pu, en 3-4 ans, je suis arrivé au niveau du marathon. Et j'ai pu en effectuer, j'en ai fait 7 dans ma vie, bon, ça suffit. Bon, enfin. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Il est intéressant que cette marche de la mort, qui a interféré avec la marche de la vie, qui a fait que j'ai changé un petit peu ma façon de vivre, et ma façon professionnelle a changé également des façons notables. À savoir que j'avais un champ d'observation sur le plan de la traumatologie courante, etc. J'avais un champ d'observation moi-même. C'était pas quelqu'un qui était en face, pour lequel je devais, par responsabilité, je devais faire des examens, je devais faire plein de choses, etc. J'ai modifié, grâce à ça, totalement mes protocoles thérapeutiques à partir de, on a, disons, 55 ans. Des choses que je faisais depuis 20 ans, qu'on nous a appris, que tout le monde faisait. Des protocoles, dans telle lésion, il faut tant de repos, il faut tant de ceci, il faut un plâtre, il faut des examens comme ça, ou autrement. Enfin, c'était un truc habituel, rituel, et je me suis rendu compte que tout ça, c'est pas tout à fait nécessaire, et qu'on peut voir les choses autrement. Et ça m'a servi de modifier ma façon de voir. la médecine. J'ai même conçu à l'époque un médicament un petit peu particulier, hein, que j'ai appelé la DMP. La DMP, c'est pas le dossier médical personnel, comme on l'appelle, c'est la DMP, c'était la mienne, c'est-à-dire en cas de traumatisme de toutes sortes, très différent, tout ça, n'est pas arrêté l'activité, a diminué, c'est-à-dire D, M, l'a méprisé, et P, patienté. Et tout ça, c'était, bien sûr, après l'examen clinique minimum, éventuellement une radiographie, s'il y avait une suspicion, il y a un corps, on pouvait s'en passer, mais ces trois lettres étaient très efficaces, d'abord pour moi, puisque j'ai expérimenté d'abord sur moi, à chaque fois que j'avais un problème, une chute, une contusion, une entorse, etc., ça marchait à tous les coups, à condition de mépriser et patienter. Si vous ne patientez pas, alors vous allez voir un, et l'autre qui ne vous soulage pas, vous allez voir un autre médecin, il y a un troisième qui vous fait ceci, et puis de la radio, on va au scanner, et du scanner à l'IRM, etc. Ça, vous connaissez tout ça. Je peux vous dire que toute cette façon de voir les choses était essentielle et importante, mais elle avait un défaut. C'est pour ça que ça ne marche pas très fort. C'est-à-dire, le défaut était, c'est qu'il bouchait des trous. Et ça, boucher les trous, ça veut dire quoi? C'est que si tout le monde appliquait la DMP, les trous de la sécu seraient peut-être un peu moins profonds. Parce qu'il y a, je maintiens, je le dis même actuellement, avec beaucoup de recul, qu'une grande partie d'examens, une grande partie de médicaments sont superflus et inutiles. Mais on est tous là-dedans, il est évident que ni le laboratoire pharmaceutique, ni les concepteurs des machines extraordinaires, je ne dis pas qu'elles ne sont pas intéressantes, il ne faut pas les faire, mais enfin, qui sont très coûteux et qu'on utilise comme ça. Bon, donc, mon DMP, il marche pour des initiés comme ça autour de moi, mais sinon ça ne marche pas beaucoup. Mais en tout cas, ça y est, je suis où là? Je suis à la fin. C'est 45 minutes. Alors j'arrive au dernier pôle. Le dernier pôle était un peu intéressant. J'arrive au bout de mon exercice médical chirurgical. J'arrête d'abord l'activité libérale, ensuite l'activité hospitalière. Et ensuite, je ne veux pas arrêter complètement mon activité parce qu'il ne faut pas sortir comme ça, il faut sortir tout doucement. Et je me suis engagé dans des missions humanitaires en Afrique pendant plusieurs années. Je suis allé pour des missions assez courtes, c'est-à-dire un mois et demi, je revenais, je repartais, etc. Surtout dans des pays comme l'Italie et en Cameroun. Et je m'étais demandé pourquoi je faisais, quand je m'étais inscrit pour faire des missions humanitaires, je me suis dit, c'est pour aider les gens là-bas, qui sont nécessiteux, qui ont besoin des choses, un cadeau, etc. C'était vraiment un truc humanitaire. Mais, dès la première mission, j'ai compris que c'était pas ça. C'était pas tout à fait ça. Que c'est vrai que c'était pour aider les gens qui étaient en besoin, mais j'avais besoin de démontrer que dans des conditions médicales, chirurgicales très difficiles, c'est-à-dire insuffisantes, auxquelles ici on ne peut pas imaginer ce qu'on pourrait faire là-bas, eh bien qu'il était possible de soigner et d'opérer avec des minimums de moyens qui aurait pu être fait pendant la Shoah pour les malades qui étaient là, on faisait mourir systématiquement parce qu'on ne voulait pas les soigner alors qu'on pouvait les soigner avec très peu de choses. Et ça, j'avais besoin de me le démontrer et c'est pour ça que j'y allais, je retournais, et j'y allais, je retournais. Et pour moi, chaque fois, c'était une chose très importante. Je vais vous dire juste une petite chose, c'est que à Attar, dans les désherbes hôpitaliens, un petit hôpital où il n'y a pas grand-chose, mais il fallait opérer quand même, et j'opérais, et je n'avais pas de labo, il n'y avait pas de groupe sanguin, il n'y avait pas de transfusion, il n'y avait rien, il n'y avait pas de radio, si vous voulez, autre. Eh bien, comment faire? Que faire? Eh bien, j'ai dit ça devant des professeurs. professeur de médecine auprès des grands rhumatologues, parce que je fais la conférence de médecin, je lui dis, le bilan préopératoire que vous connaissez tous, puisque vous avez tous été un peu opérés à gauche à droite, et donc vous avez le bilan, l'anesthésie, etc., et des examens et tout, pour voir les bilans. C'est moi qui le faisais parce que j'avais même pas d'anesthésie, j'avais un infirmier qui poussait la sphinx et tout. Eh bien, je faisais le bilan préopératoire moi-même, qui consistait, ça prenait 30 secondes, consistait à prendre le pouls de l'opéré éventuel du blessé. Si le pouls était ni trop rapide, ni trop long et régulier, et bien frappé, c'est que la condition cardiovasculaire était bonne. Et puis ensuite, le deuxième examen, c'était regarder le blanc de l'œil. S'il était bien rose, c'est que la fonction hématologique était bonne, que les globules étaient bons, et puis on opérait comme ça. Voilà. Et je ne parle pas d'autre chose, la transfusion, la possibilité de transfusion directe que je faisais faire. D'ailleurs, je n'en avais pas besoin parce que j'avais tellement appris à opérer sans transfusion que j'opérais là-bas et je n'avais pas besoin de transfusion.